Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jody Daniel Kachama.
Okapi.
Et oui, fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette seconde partie de cette émission. Nous allons parler de la résiliation des contrats forestiers illégaux en République démocratique du Congo. Quelle est la suite qui a été réservée aux recommandations faites par la commission d'enquête? Eh bien, nous allons en parler avec Monsieur Guy Kanjemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Monsieur Guy Kanjemba, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Il n'est pas seul. Nous avons également dans ce studio Augustin Moudiaï. Il est communicateur. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Les questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Composez les 0-99-706-99-41. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Jean-Claude Tiala assure la mise en onde de cette émission. Tati Mapoukou à la coordination. Micro Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Mon ton son, notre votre l'heure.
Le français parlons-en, c'est tous les samedis à 13h05 sur Radio Okapi.
Parlons français. Le français parlons-en.
Le français parlons-en, un programme de Radio Okapi coproduit avec l'ambassade de France en RDC et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le français parlons-en, une autre façon d'apprendre et de parler correctement le français.
Parlons français. Le français parlons-en.
Bien, le ministère de l'Environnement et du Développement Durable avait donné 15 jours aux exploitants forestiers pour introduire leur recours après la publication du rapport de la commission de révisitation des contrats forestiers le 12 avril dernier. Ce rapport proposait la résiliation des 30 contrats d'exploitation et de conservation. Il s'agissait d'une troisième étape, d'un troisième état des lieux demandé par le gouvernement sans qu'il y ait une suite aux recommandations qui ont été faites. Alors cette fois-ci, on se pose la question de savoir est-ce que les 30 contrats forestiers illégaux ont-ils résiliés ou pas et qu'est-ce qui bloque? Voilà, et bien on aura des réponses à toutes ces questions avec nos invités. Je commence avec Augustin Moudiaï, vous êtes communicateur, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-nous, vous avez eu à travailler sur ces dossiers, pouvez-vous nous rappeler quelle était votre implication dans les dossiers?
Alors,
dans la réalisation de ces enquêtes.
D'accord. Alors, on avait le média actualité.cd qui appartient au groupe Nexcorp, avec son réseau de journalistes, avait mené une enquête sur ces dossiers. Et donc, on avait les journalistes étaient descendus sur terrain dans plusieurs provinces, notamment dans la province du Maïndombé, dans la province de Mongala. Mais également, les journalistes avaient essayé de contacter les différentes parties prenantes dans ces processus, notamment le ministère de l'Environnement via les directeurs des cabinets, Madame la ministre F. Bazaïba. Donc voilà, on s'était rendu compte que la commission mixte qui a été mise en place à la suite du rapport de l'IGF avait fourni certaines recommandations et pour les ministères il fallait quand même un peu de temps pour pouvoir entamer le processus, mais surtout la question c'était celle de savoir est-ce que les sanctions recommandées par la commission allaient être mises en exécution. Mmh. Et donc, pour le ministère qui a été interrogé, le ministère pense qu'il fallait encore des méthodes et que les personnes, il fallait appliquer les sanctions, non en principe, donc en fonction des personnes, mais en fonction d'institutions.
Alors, il y a 30 contrats d'exploitation de forestiers qui ne sont pas en ordre. Alors, quels sont les, ou disons, je veux dire, de quoi on accuse concrètement ces entreprises-là?
Voilà.
Ou ces contrats?
Les problèmes, il y a notamment les problèmes du non-respect des cahiers des charges. Mmh. Il y a également les problèmes des taxes qui n'ont pas été payées, notamment la taxe de la surface. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées à ces entreprises. Il y a également la question du respect des droits de l'homme. Mmh. Donc, des communautés locales, des peuples autochtones qui vivent autour de ces concessions qui n'ont pas été respectées par certaines entreprises. Et donc, toutes ces questions-là, ça fait beaucoup de choses qui ont été reprochées à ces entreprises.
Mmh. On parle des 30 contrats sur combien?
Au départ,
au total, on a
une quatre-vingtaine de concessions forestières qui ont été vendues en RDC, donc mmh. jusque maintenant, puisque la ministre dit qu'elle, depuis qu'elle est arrivée au pouvoir, elle n'a jamais vendu un seul centimètre des forêts congolaises comme concession forestière.
Voilà. Donc elle a hérité.
Elle a hérité, selon elle, elle a hérité de ses prédécesseurs.
D'accord. Et sur les 80 contrats, il y a 30 qui ne répondent pas aux normes.
Voilà. Selon la commission qui a été mise en place, il y a 30 qui n'ont pas été en ordre et donc ils ont recommandé de les résilier carrément, ou il y en a d'autres qui devraient être mises en sursis.
Et un délai de 15 jours a été accordé à ces entreprises pour introduire les recours.
Voilà, ça fait partie des difficultés qui ont été rencontrées par la commission, notamment, puisque la méthode qui a été utilisée, c'est une méthode documentaire d'abord, et puis des interviews. Il y a certains responsables qui ont été invités par la commission, qui ont eu la gentillesse de répondre aux invitations, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu fournir un seul document et qui n'ont pas répondu à l'invitation ou aux différentes invitations de la commission. Et donc, il y a eu la recommandation pour toutes les entreprises qui n'ont pas répondu à l'invitation d'être résiliées ou carrément considérées comme illégales. Mmh. Donc, voilà.
Et qui a fait cette recommandation? C'était la commission?
C'était la commission mixte. Donc, la commission mixte, il y a différents services qui ont été associés à cette commission. Mmh. Mais le seul problème, c'est que la société civile n'a pas été associée à cette commission. Donc voilà, il y a eu quand même, ce mécontentement de la société civile congolaise, donc la société civile environnementale, qui n'a pas été associée.
Je pense que M. Dikanjemba a fait partie de cette commission.
Non, malheureusement. C'est ce qu'on tentait de dire. La commission, le travail de cette commission-là, c'est un travail qui ne nous rassure pas. Apparemment, il y avait des choses qu'on devait cacher. Donc les résultats pour nous jusqu'à aujourd'hui, on demande encore qu'on puisse encore retravailler ensemble. Parce que c'était juste, c'est quand on fait un travail comme ça, il faut que toutes les parties prenantes soient là pour qu'on puisse, disons, s'assurer que c'est fait dans les règles d'art, qu'il n'y a pas de corruption, qu'il n'y a pas de choses cachées. Comme on a toujours dit, dans ces concessions, vous allez trouver qu'il y a des généraux et qu'il y a, c'est pas moi qui, et tout ce trafic d'influence-là ne nous rassure pas. Et il faut dire aussi que bon, c'est un travail qui a été fait. Nous l'avons salué, même si on savait que ça n'avait pas marché, ça n'avait pas avancé. Ça n'avait pas avancé pour deux raisons. Parce qu'il y avait d'abord des contrats qu'ils ont appelés illégaux, et puis il y avait des contrats douteux. Les contrats douteux devaient subir un audit. Les contrats illégaux devaient être résiliés carrément et purement. Et depuis lors, nous, ça ne nous a pas intéressé parce que nous pourrions aussi travailler pour faire avancer la question, mais tellement qu'au début, on n'était pas
associés. Mais qui ont fait partie de cette commission alors?
Non, juste le
membre du gouvernement.
Le membre du gouvernement, le délégué de la présidence, de la primature, juste eux, c'est entre eux. Et c'est là le problème. On peut pas faire, on peut faire un travail aussi qui concerne les communautés locales, les peuples autochtones qui se vivent dans ces milieux sans les associer, ça devient un problème. Mmh.
Ouais, ouais. Bien, on va accueillir les auditeurs, Nassor Moussa de Kinshasa et Kaite Kalunga de Lumbashi. Nassor, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour aussi à nos deux invités, à tous les auditeurs de la radio Capi. Pour ce qui concerne le thème, je connais bien cette question. C'est depuis le 12 avril que le ministre de l'Environnement et du Développement Durable avait donné 15 jours aux exploitations forestières pour faire leurs réclamations suite à la publication du rapport de la commission des révisitations des contrats forestiers. Et je voulais rappeler une chose avant de demander quelques questions aux invités. Ce qui est légal est légal et ce qui est illégal. Avant même que le ministre puisse ordonner qu'il y ait les contrôles dans ce secteur, en 2021, je crois l'IGF avait même un rapport sur cette question. Maintenant, je vais poser une question aux invités. Il y a des forestiers qui ont fait les recours, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu des réponses par rapport à cette résilience de ces 30 contrats. À ce stade ici, ils ne savent pas par quel moyen atteindre les ministres pour leur montrer leurs documents, bien entendu, légaux qui leur permettent à exploiter dans ce secteur tout en respectant l'environnement durable. Merci beaucoup.
Bien, merci. Kaite Kalunga de Lumbashi, bonjour. Kaite Kalunga, vous êtes à Lumbashi, bonjour.
Oui, je vous suis vraiment, je vous suis, bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Oui, en fait, moi, je voulais parler sur les sujets parce que j'ai laissé mon commentaire là pour le sujet d'aujourd'hui. Alors, concernant sur les plans forestiers. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, parce que nous voyons très bien que l'État ne se préoccupe pas des forêts. L'État se préoccupe beaucoup sur les plans miniers. Alors, moi, parce que, il y a un cours en...
Oui, Kaïté, vous êtes là? Allô?
Vous me suivez bien là-bas?
Oui, quelle est la question? Allez-y rapidement.
Alors moi, la question est de savoir, parce que vous avez parlé sur la résiliation. Maintenant, moi, je voulais demander, parce que...
Allô? Bon, il y a certainement quelques soucis au niveau de la liaison téléphonique. Augustin Moudiaï, votre réaction par rapport à ce que nous a dit tout à l'heure le premier intervenant.
Donc voilà, c'est vrai que il y avait un délai de 15 jours qui a été donné, mais la question par rapport...
Et ce délai est déjà expiré.
Très longtemps. Depuis très longtemps.
Et juste après, longtemps. Qu'est-ce qu'il y a eu comme action ou
décision? Après, il n'y a pas jusque là aucune décision n'a été rendue publique, puisque la commission qui a été mise en place avait également demandé certaines choses. Par exemple, qu'elle devrait être, disons, reconvertie en une commission permanente de suivi ou de monitoring de cette question des concessions forestières. Mais la question que nous tous nous posons aujourd'hui, est-ce que les recours ont été faits dans les délais? Ça aussi, c'est un problème. Mais si les recours ont été faits dans les délais, donc les problèmes maintenant reposent où se trouvent au niveau du ministère. Puisque
combien de temps le ministère doit prendre pour examiner chaque recours et donner la décision
finale? Le ministère n'a pas précisé. Ils ont juste donné un délai de 15 jours pour déposer les recours. Mais quand est-ce que les concessionnaires devraient avoir devraient être fixés sur leur sort, là le ministère n'a pas encore posé donc n'était pas clair, donc il n'y avait rien qui a été dit. Donc pour répondre à notre auditeur, c'est que les problèmes, c'est que les se trouve au niveau du ministère, donc
de l'environnement.
Donc on espère très bien que le ministère finira par répondre à cette question, puisque il n'y avait pas de durée qui a été proposée pour la réponse, sauf pour recours.
Bien, Blaise Saïd, vous êtes à Kisangani, bonjour. Blaise Saïd de Kisangani, bonjour. Bien, il n'est plus là. Monsieur Guy Kanchemba, votre réaction par rapport à ce que Nassor a dit tout à l'heure?
Oui, ma réaction est que le problème, d'abord, les rapports, quand vous lisez les rapports de la commission, dans les recommandations, ils ont demandé de descendre sur terrain. C'est qu'à un moment donné, ils n'étaient pas sûrs d'avoir fait leur travail en se limitant à une revue légale, à des revues documentaires. Ça, c'est d'abord un problème. Le deuxième problème, c'est que par la suite, on n'a pas demandé de dire à quelqu'un en 15 jours amenez vos recours, mais on les amène où? Ce n'est pas chez le ministre. Le ministre a beaucoup de choses à faire. On n'a pas institué un cadre qui devait permettre à ce que les gens puissent trouver un canal pour vérifier, parce que nous pouvons aussi vérifier ensemble. Et c'est là le problème. Donc ça s'est limité là-bas. On a annoncé. Nous avons vu le chef de l'État insister sur la réalisation de ce contrat-là. On s'est dit cette fois-ci ça va marcher, mais on s'est dit c'est encore une fois que ce n'est pas complet, ce n'est pas, la commission a produit un travail de bureau, et nous, peut-être, si on était associés comme ce civil, nous sommes partout, on peut peut-être documenter et avoir des informations de terrain. Et voilà un peu ce qui nous inquiète, nous, par rapport à ce travail-là.
Oui, mais 15 jours après les délais de recours, il n'y a rien, on ne sait pas, aucune décision.
Je dis 15 jours pour faire les recours chez qui?
Ça, c'est pas connu.
C'est un discours, 15 jours.
On va aller
demander l'audience au ministre pour amener un recours, vraiment. Oui. Et ça a posé beaucoup de problèmes dans le fonctionnement du ministère de l'Environnement, parce qu'il y a des services techniques. Mais ce travail a été pris en charge par les équipes politiques, par le ministre. Or, c'est un travail qui pouvait être documenté par les amis de la DIAF, de la direction des forêts et les autres qui sont sur le terrain, qui contribuent peut-être à suivre un peu tout ce genre de dossiers. Donc, c'est ça.
Mais pourquoi, peut-être que c'est la même commission mixte qui pouvait s'occuper aussi du traitement des recours, non?
Oui, mais il fallait un mandat, parce qu'ils avaient un mandat précis. Ils ont été mis en place pour un travail précis. Dès qu'ils ont déposé le rapport, il fallait renouveler, comme il l'a dit. Il fallait qu'on puisse renouveler le mandat et donner d'autres attributions. Et dans les attributions qu'ils avaient demandées, ils ont demandé de descendre sur le terrain pour corroborer les informations qu'ils avaient données. Et donc, ce n'était que des recommandations qu'ils ont données. En attendant, on espère qu'il y ait la suite. Mais aussi, nous continuons de dire que ce travail n'a pas été complet. Nous ne pensons pas que ce qui a été fait de manière objective, parce que nous n'avons pas été impliqués. Voilà.
Bien, la société civile n'a pas été impliquée. Donc, tout d'après vous, ce rapport n'est pas, le rapport qui a été fait ne tient pas debout, si je comprends bien.
Mais c'est ce qu'on dit maintenant. Quelle est la suite? Depuis que le rapport est sorti, c'est depuis l'année passée. Quand on fait des choses comme ça, par moment, ça se limite à un rapport et puis on ne sait pas
avancer. On ne sait pas avancer
avec. Alors. Et nous, souvent, notre souci, notre travail, c'est de suivre l'après-rapport. Souvent, c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons nous assurer du respect des engagements des uns des autres, de voir un peu si la suite. C'est ça. Mais quand on n'est pas été impliqué, nous qui sommes sur le terrain, on s'inquiète beaucoup pour documenter ce travail.
Bien, on va accueillir Godé Kidiongo de Kikwit. Bonjour Godé. Godé Kidiongo, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la résiliation des contrats forestiers illégaux en RDC?
Vraiment, la mathématique du jour est très importante, monsieur le journaliste. Je suis victime d'une forêt ancestrale laissée par nos ancêtres. Mais moi j'aimerais bien que l'invité, M. Jedi Kachama, vous devez inviter aussi les juges qui jugent de pareilles situations dans des grands tribunaux et des tribunaux de paix. Puisqu'il y a une grande difficulté à ce qui concerne des forêts donc ancestrales. Vraiment, ici, dans la ville de Kiprit, je suis vraiment coupable de cette finale-là. La forêt restée par nos ancêtres, un expatrié belge qui disait qu'il a acheté ça à l'époque coloniale en 1935. Vraiment, je ne sais pas. L'invité aura le temps de me répondre. Puisque ici, à la ville de Kiprit, les juges de la grande instance de Kiprit et de Burungu sont avec mille difficultés pour.
Bien, vous voulez dire qu'il y a une forêt ancestrale qui a été vendue à certains sujets belges aujourd'hui, voilà. Vous regrettez bien cette situation-là. Augustin Moudiaï, qu'est-ce que vous...
Est-ce qu'on vendait des...
Oui.
Oui.
Est-ce qu'on vendait les forêts à l'époque coloniale, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça, ma question, puisque les gens ont beaucoup de difficultés pour ces dossiers-là.
Bien, merci Godé Kidion, Godé Kikuit. Augustin Moudiaï, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que vous pouvez dire à Godé?
Voilà, à notre ami Godé, il faut faire un petit rappel puisque il y a une plainte qui a été déposée par l'ONG Greenpeace, justement appelant les juges pour notamment s'impliquer. Et que les personnes qui sont vraiment impliquées dans ces processus d'attribution illégale des concessions forestières en RDC soient finalement traduites devant la justice.
Et ça aussi, c'est un problème. Quelles sont ces personnes qui attribuent? Ce n'est pas le ministère de l'Environnement qui attribue ou il y a des particuliers aussi qui sont impliqués?
Bon, la chaîne, elle est tellement longue puisque, voilà, c'est vrai. Personne ne peut aller sur terrain et commencer à exploiter du bois sans qu'il y ait des complices. Donc, très bien.
Mais ce qui a parlé, c'est certains généraux qui sont derrière.
Justement, il y a certains généraux qui ont été cités dans les rapports. Il y a également la responsabilité du ministère de l'administration du ministère de l'Environnement a été clairement indiquée, notamment dans les rapports de l'IGF. Mais aussi dans la commission qui a été mise en place. Donc, les problèmes, c'est aussi que la justice puisse jouer son rôle, notamment cette plainte qui a été déposée au niveau de la Cour de cassation par Greenpeace. Il n'y a toujours pas de suite.
Une plainte contre
toutes les personnes qui ont été indiquées dans les rapports de l'IGF. La plainte a été déposée, mais jusque là, il n'y a toujours pas de suite. Il y a également un recours administratif qui a été fait par la société civile justement pour résilier certains contrats, mais il n'y a toujours pas de suite à toutes ces démarches là. Donc,
Monsieur Guy, pourquoi on n'arrive pas à décider? Est-ce que il y a la corruption? Il y aurait des pots de vin quelque part ou quoi?
Disons qu'à notre niveau, c'est nous qui avions commencé ce débat là. Nous avions saisi l'IGF parce que nous avions documenté 9 concessions pendant la période de Nyambugabo, ministre Nyambugabo. Nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de mafias dans ces histoires-là. On a saisi l'IGF. L'IGF a fait un travail, mais qui a été occulté. Donc, c'est ça le problème aussi. Il y a un travail de l'inspection et vous créez une commission.
Pour occulter le travail de...
Ah oui, c'est ça la
stratégie.
Le flou que nous avons vu dans ça. De l'autre côté, c'est pas seulement de dire, comme on dit, qui est responsable? Vous me donnez des papiers, je travaille, après vous me dites, vous venez résilier. C'est pas mécanique. Il faut dégager, comme nous disons, la responsabilité. On ne peut pas être victime d'une mauvaise gouvernance. Quand les gens viennent, ils vous soudoient, ils vous malmènent, et puis après, on vient, on vous dit non, on vous ravit. Ça pose un problème. Et que donc, quoi qu'il en soit, le voie de recours et la vérification de toutes ces informations restent d'actualité. Je pense que c'est là où il doit y avoir un blocage. Le blocage doit être du fait qu'ils ne peuvent pas, juridiquement parlant, que ce soit même les miniers ou ailleurs, quand vous prenez un engagement, même vous voulez résilier un contrat, il y a des conditions. Et ces conditions, il faut les remplir. Il faut permettre aux gens, donner aux gens les moyens de se défendre. Et ils n'ont même pas fait d'entretien au niveau de la commission. Donc ils ne sont pas partis sur le terrain, ils n'ont vu personne. Ils ont ramassé des documents passés par là en vrac. Et ils ont publié des choses. Nous, quand on avait demandé, nous avions documenté 9 concessions qui posaient problème vraiment réellement. Et sur lesquelles on disait qu'il faut. Et on a saisi.
Vous avez demandé qu'on résilie les contrats.
On a demandé d'abord qu'il y ait un travail qui soit fait, une enquête qui soit faite, pour qu'on puisse arriver à ces résultats-là. Et malheureusement, comme j'ai dit, à la place de poursuivre d'abord le travail de l'IGF pour avancer avec, on met encore une commission qui fait d'autres conclusions qui sont différentes de l'IGF et qui sont différentes des nôtres.
Et la plainte jusqu'aujourd'hui sans suite.
Et après, dans la commission, il y avait personne de l'IGF, il y avait personne de l'OSCE civil. Donc, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui était boutiqué là-bas.
Bien, on va accueillir Blaise Saïdi de Kisangani, résiliation des contrats forestiers illégaux en RDC. Blaise, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Blaise Saïdi de Kisangani, bonjour. Bien, Blaise n'est pas en ligne. Nous parlons de la résiliation des contrats forestiers illégaux. Voilà. Après l'enquête, la commission d'enquête a travaillé, mais jusqu'à ces jours, les délais donnés pour introduire les recours est déjà dépassé. Et où est-ce qu'il fallait introduire ces recours? C'est pas très très clair, c'est pas connu. Et jusqu'à ces jours, aucune décision n'est prise. On ne sait pas si ces contrats ont été bel et bien résiliés ou pas. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit non, il y a des entreprises qui ont introduit les recours, mais on les a jamais répondu. Augustin Moudiaï, comment analysez-vous cette situation?
C'est comme nous sommes en train de le dire, c'est une situation, pour certaines personnes, cette commission, c'était juste pour sauver la face de certaines personnes qui sont directement impliquées dans ces processus d'attribution illégale des concessions. Comme l'a relevé ici Maître Guy, pourquoi l'IGF n'a pas été associé à cette commission? À la limite, il y avait aussi l'ANER, mais pourquoi l'IGF n'est pas associé? Pourquoi la CIVI civile n'est pas associée? C'est puisque, déjà, comme Maître Guy le disait, il y avait déjà certaines personnes qui ont été identifiés dans l'attribution de ces 9 concessions-là, par exemple, mais qui, se sont rendus compte qu'ils sont directement rattachés à ces attributions et qu'ils devraient normalement répondre de leurs actes. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait alors créer une commission, voilà, et écarter, par exemple, l'IGF et la CIVI civile, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Comme ça, les conclusions, parce que les rapports qui a été, par exemple, les rapports qui a été rendu public, c'était un rapport préliminaire auquel nous tous nous avons eu accès. Les rapports finaux, est-ce qu'il a été fait? Est-ce qu'il y a eu des centres sur terrain? Est-ce que
vous avez fait partie de cette commission ou pas?
Non, je n'ai pas fait partie de cette commission, mais les rapports a été publié par les ministères lui-même. Il est même sur les sites du ministère. Et voilà. Et donc, c'était les rapports préliminaires. Donc, mais les rapports finaux, jusque-là, on ne sait pas s'il a été fait ou pas. Donc, voilà. Le problème, c'est aussi celui-là.
Voilà. On ne sait pas si le rapport final a été publié ou pas. Donc, si je comprends bien, Monsieur Blaise, Guy Kanjemba, pardon. Selon vous, ce rapport n'est pas du tout crédible. Il faut refaire le travail.
Non, absolument. Moi, j'ai dit que une des recommandations de la commission, c'était de descendre sur terrain. Et ce qu'ils ont recommandé, les deux recommandations, soit la résiliation des contrats doutés, de contrats illégaux et la vérification des contrats doutés, étaient des recommandations. Vous voyez? Et que donc, nous pensons qu'on pourrait faire ce travail, qu'il y a une base qu'ils ont, et qu'il y a la base que nous avons produite, avec la vérification de l'IGF, qu'on pourrait faire mettre tous ensemble tout cela et tirer des conclusions qui nous permettent à ce que nous tenons vraiment à ce que l'illégalité soit combattue le plus possible. Mais apparemment, ce n'était pas ça l'objectif de cette commission de réhabilitation. Et ça nous a beaucoup inquiétés, ça continue à nous inquiéter. Non seulement.
Et cette commission a travaillé pendant combien de temps?
Non seulement il y avait cette étude-là en parallèle, il y avait aussi la revue légale. Il y avait un travail qui était fait de la revue légale par l'Union européenne, qui était en cours aussi en même temps. Et donc, tous ces courts-circuits-là, c'était juste pour ne pas permettre à ce qu'on puisse avoir la traçabilité de ce qu'on veut faire.
Est-ce que la revue légale de l'Union européenne, les conclusions de cette revue et du rapport, est-ce que ça dit la même chose ou il y a divergence?
Donc, quand nous avions vu le ministre que nous avions inculpé dans ce dossier, il nous a dit, il comprend, il trouve que c'est fondé, mais il attend les conclusions de la revue légale pour prendre une décision, parce que nous avons demandé carrément et purement de résilier ce contrat qu'il avait signé. Et nous nous sommes dit, bon, cette étude aussi a pris le temps que ça a pris. Nous avons eu des rapports préliminaires. Et entre-temps, on nous crée encore un autre monstre, c'est la commission de révistation. Et voilà, donc, voyez un peu là, c'est là où il y a un flou qui ne permet pas un peu de voir clair dans cette question-là. Et nous allons peut-être y travailler prochainement pour voir un peu si on peut approfondir la question et demander au ministre de voir comment on peut avancer sur la question ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont vos recommandations aujourd'hui à ce stade où
c'est un travail régalien du gouvernement, donc c'est encore aller vers le gouvernement pour lui demander d'approfondir la question et d'avancer pour que nous puissions sortir, parce que on viole le moratoire à tout moment à partir de ça.
Avancer, qu'est-ce que cela veut dire, avancer? Quand vous parlez qu'il faut avancer, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement?
Avancer, c'est d'abord s'assurer que le travail a été fait de manière professionnelle. On fait des interviews, on descend sur le terrain.
On fait l'analyse documentaire.
Oui, on prend les informations qu'on a sur les documents, on essaie un peu de les trianguler avec la réalité du terrain. Et à ce moment-là, au moins l'inculpé connaît son sort. Parce qu'on peut, le demander, donnez-nous le plan simple de gestion. Donnez-nous le cahier des charges. Donnez-nous ceci.
Mais qu'est-ce qu'on répond généralement à ces exploitants forestiers?
L'illégalité, c'est tout. C'est-à-dire travailler dans l'opacité. Il ne paye pas les taxes. Il n'a pas défini la superficie.
Il coupe les bois sans reboiser.
Il coupe les bois qui ne sont pas autorisés en désordre. Et puis, sans respecter les normes et tout ça. Donc c'est tout ça là le problème. C'est beaucoup plus au niveau des documents, des engagements de travail.
Bien, nous parlons de la résiliation des contrats forestiers illégaux en RDC. Des questions et préoccupations, composez le 099-706-9941. 099-706-9941.
Le magazine des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies. Le magazine des Nations Unies, tout sur les faits saillants des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 8h30 et en rediffusion à 19h05.
Bien, résiliation des contrats forestiers illégaux à RDC, quelle est la suite après la publication du rapport de la commission d'enquête? On va accueillir Jean Bosco Ouabangaoué, président de la Fédération des exploitants forestiers artisanaux. Jean Bosco, bonjour.
Bonjour.
Bien, vous avez suivi la publication des recommandations des enquêtes effectuées par la commission mixte et qui a proposé que 30 contrats forestiers soient résiliés. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Votre réaction à ce sujet?
Bon, j'espère que cette commission a fait ses enquêtes et son travail dans les normes, dans la transparence. Si cela est le cas, j'adhère totalement. Parce que dans le secteur industriel, ça s'est posé aussi quelques problèmes. Et surtout avec nos amis asiatiques n'étaient pas vraiment tous dans la légalité. Voilà. Donc, je pense que la suspension de ces 30 contrats est justifiée.
Voilà, ce n'est pas, la suspension n'est pas encore effective, c'est juste des recommandations. Alors, alors Jean Bosco, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la manière dont ces personnes exploitent la forêt? Vous avez parlé des Asiatiques, j'imagine les Chinois qui sont peut-être à l'Équateur, qui sont couverts par certains généraux, etc. Quelle analyse vous faites de cette exploitation forestière?
Mais écoutez, l'exploitation forestière est régie par des textes. Il y a le code forestier, il y a l'arrêté 084, il y a plusieurs arrêtés qui gèrent les textes qui gèrent les forêts. Mais il y a le noir et le blanc dans tout cela. Vous trouvez des...
Le noir et le blanc.
Il y a le noir et le blanc dans tout cela.
Oui.
Donc, de vrai et de faux dans tout cela. Vous trouvez dans certaines forêts les expatriés en connivence avec leur parapluie entre dans des forêts sans respecter les textes. Nous avons moratoire. Ça fait presque un peu plus de 20 ans qu'il y a un moratoire sur les nouvelles concessions. Vous vous posez les questions. C'est les industriels là qui viennent dans le forêt. Est-ce qu'ils trouvent il y a violation du moratoire ou quoi? Parce que le moratoire jusqu'à présent n'est pas encore levé. Comment est-ce qu'ils entrent dans le forêt pour exploiter le bois? Voilà, c'est ça le grand problème.
Bien, merci. Alors dites-nous, comment vous faites pour exploiter? Comment est-ce que vous exploitez aussi dans la légalité? Vous avez tous les documents. Comment ça se passe? Parlez-nous de votre expérience.
Le secteur artisanal a moins de problèmes, au fait. Le secteur artisanal exploite pas dans des concessions attribuées. Les exploitants forestiers artisanaux négocient avec les ayants droit des terres avant de commencer les démarches auprès de l'administration forestière. Vous signez, on vous octroie un permis de coupe de 50 hectares dans une forêt qui n'est pas attribuée. Dans une forêt qui n'est pas une concession industrielle. On vous attribue 50 hectares pour une année. Et si vous épousez cela avant une année, vous pouvez demander une deuxième. Donc, il y a moins de problèmes avec les artisanaux que les industriels.
D'accord.
Vous avez votre agrément qui vous donne la qualité d'exploitant. Vous avez votre permis de coupe sur une surface bien déterminée et connue avec carte. Vous payez vos droits, vos taxes, notamment taxes d'abattage auprès de fonds forestiers qui est censé financer les reboisements, parce que en tant qu'exploitant, tout exploitant, la loi dit, celui qui coupe reboise. Mais tout le monde n'a pas la capacité de reboiser. C'est une technicité, c'est une expertise. Bon. Par conséquent, vous payez une taxe, les fonds forestiers qui perçoit ces taxes, c'est pour financer les reboisements à votre place. C'est ça que c'est. Malheureusement, ce n'est pas le cas.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui est dommage.
Bien, merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Jean Bosco Wabanga, oui, président de la Fédération des exploitants forestiers artisanaux. Un message, il y a un auditeur qui nous a écrit, Kamumba Kasongo Joseph, depuis Kindu. Vous savez que le secteur forestier est vraiment oublié par les autorités en se focalise beaucoup plus sur les mines. Or, le gouvernement devait contrôler de près et de loin pour lutter contre la destruction de nos forêts. Bien, Augustin Moudiaï. Donc, on retient que les rapports a été publié. Il n'y a pas de suite. Les délais pour les recours est déjà largement dépassé. Il n'y a rien. Alors, quelles sont vos propositions?
Alors. D'abord pour lutter contre tous ces, disons, désordres au niveau de d'attribution des concessions, je pense que la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord mieux payer les agents de l'administration, parce que quand quelqu'un est mieux payé,
il va pas sombrer dans la corruption.
Voilà, ça sera un peu difficile. Bien que l'argent a toujours un pouvoir, mais serait un peu difficile de les corrompre. À part ça, il y a également un problème de contrôle régulier. Il ne faut pas toujours qu'on attende que l'IGF, que peut-être la Cour des comptes ou que une inspection fasse un rapport pour qu'à ce moment-là, on se réveille et qu'on se dise « Allô ». On va aller vérifier. Non, ça doit être quelque chose de régulier et surtout les problèmes au niveau des sanctions. Quand quelqu'un est reconnu fautif, il faut sanctionner. Il faut sanctionner. Il ne faut pas qu'on trouve des mécanismes pour pouvoir contourner les sanctions et dire voilà, on doit attendre et puis finalement puisque
les... Mais entre-temps, il y a des pots de vin et
voilà,
puis à la
et
fin,
puis finalement,
bon, on en parle
tout
plus.
Le monde, oui, voilà. Finalement, tout le monde oublie et puis ça passe. Donc voilà, ça c'est parmi les choses. Et puis il faut, sur les plans logistiques, il faut doter quand même les agents qui sont chargés des contrôles du matériel, qui doivent vraiment aider à pouvoir distinguer le faux du vrai. Et voilà. Donc pour moi, ce qu'il faut faire à ces jours, c'est que il faut une descente. Il faut vraiment une descente, aller sur terrain, aller par exemple à parler avec les concessionnaires sur terrain, faire les constats.
Mais si ces gens ont des couvertures, sont couverts par certaines autorités ou militaires, etc., ça complique les choses.
Justement, c'est là aussi les problèmes. C'est là aussi les problèmes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle dans notre pays les parapluies.
Les parapluies.
Voilà. Donc chaque concessionnaire a son parapluie qui le protège. Quand il y a une révélation, il va recourir et voilà, il va s'en sortir. C'est ça les problèmes et c'est là que la justice doit aider. C'est là que la justice doit aider. Donc toute personne qui est citée doit vraiment répondre de ses actes. Répondre de ses actes ne signifie pas seulement que la personne doit être arrêtée et mise en prison. Non, mais la personne doit se justifier. Il doit quand même rendre compte de ce qu'il a fait. Voilà. Et puis c'est maintenant au juge de décider si quel sort sera réservé à la personne. Donc il y a un problème, c'est la justice. Contre tout ce qu'il y a comme barrière, je pense que la justice, c'est elle qui doit vraiment aider les ministères de l'environnement.
Monsieur Guy Kajemba, faut-il encore aller réveiller l'IGF par rapport à ces dossiers ou
Nous insistons sur 5 choses.
Oui.
D'abord, le moratoire qui doit être maintenu jusqu'à ce qu'on termine les conditions. Le réforme.
Ça n'a pas été levé.
Le n'a pas encore été levé.
D'accord.
La finalisation des réformes, c'est-à-dire le code forestier doit être actualisé, la loi et les politiques forestières doivent être mises à jour pour intégrer toutes ces questions-là. Nous insistons aussi sur la transparence et la participation publique dans ce genre de dossiers. Nous avons ainsi insisté dans notre document sur l'audit et la surveillance indépendante. Bon, nous avons déjà des observateurs indépendants, mais il faut auditer tout le temps cette question-là. Il y a toute la question des capacités institutionnelles des acteurs sur le terrain, tous les agents de l'État. Les sanctions et les poursuites, ça on vient de dire, on insiste sur ça. L'IGF ne peut gérer que cet aspect-là. Enfin, c'est vrai que cet aspect-là d'identifier, de faire la patrouille. Et après, on a toujours besoin de soutien des partenariats internationaux pour évoluer. Donc nous avons identifié six pistes pour essayer un peu d'adresser cette question. Et on espère que si on passe par là, ça pourra marcher. Si dans le futur, il y a une réflexion faite en tenant compte ces principes-là, je pense que ces choses peuvent s'améliorer.
Mais on a l'impression que l'exploitation continue malgré l'existence du moratoire.
Oui, mais c'est ça. Quand on parle de l'illégal, ça fait partie. C'est-à-dire qu'on viole le moratoire. Que les ministres ont violé le moratoire beaucoup de fois. C'est ça la partie de l'illégalité. Et c'est là où j'ai dit que les sanctions sont partagées. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il y ait des sanctions de poursuite en amont et en aval. Il ne faut pas qu'on victimise seulement les exploitants. Il faut que sanctionner ceux qui aussi contribuent à ce qu'il faut donner des mauvaises informations pour que le document soit signé. Les contrats, avant qu'ils soient signés, il faut des enquêtes préalables, publiques et tout ça. Ce sont les agents de l'administration qui vont faire des enquêtes-là, qui ramènent des informations à l'autorité pour signer les contrats. Et quand ils amènent des fausses informations parce qu'ils ont empoché
de l'argent, ça pose
un problème.
Donc c'est un peu affaire des parapluies, tant qu'il y aura aussi des parrains qui les protègent, c'est aussi un problème.
Oui, c'est une guerre quotidienne en RDC. La justice a beaucoup de problèmes dans toutes ses dimensions. Et qu'il y a toujours des tout-puissants qui sont dans l'ombre et qui tirent les ficelles. Je voulais aussi insister sur, parce qu'on parle beaucoup plus, la plupart des malins, comme les Chinois là, ils viennent prendre un permis de coupe artisanale, et puis après ils font l'exploitation industrielle. Et, vous voyez, déjà là ça pose problème. Pour éviter toutes ces conditionnalités là, il fait ça. Et d'autres, qu'est-ce qu'ils font là où pour être encore plus illégal, ils changent de nom. Ils changent de nom, ils changent de propriétaire.
Ils prennent le nom des Congolais.
Non, enfin, le nom de l'entreprise. On peut appeler ça Booming aujourd'hui, demain on appelle autre chose. Vous allez chercher Booming.
Vous allez chercher Booming, mais...
vous revenez à Kinshasa ici, vous cherchez l'adresse de ces entreprises.
L'adresse n'existe pas.
Vous l'avez vu à l'internet, mais vous le cherchez, il n'est pas là. L'adresse physique n'existe pas, tout ça. Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là qui sont dans nos possibilités.
Il y a toutes ces techniques pour tromper...
Pour tromper le fisc et tout le reste.
Mais il y a aussi cette affaire, quand on coupe, il faut reboiser. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'on reboise concrètement?
Ça, c'est un problème. Nous avons un FFN qui devait en principe matraquer sur cela. Mais apparemment... Il récupère l'argent, mais...
Il n'y a pas de reboisement.
Non, on a parlé des milliards d'arbres. Là,
et on a parlé d'un projet de 1 milliard, je crois.
Ça nous a fait trembler ici, mais après, ça n'a jamais été réel. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, Augustin, pour qu'il y ait concrètement reboisement? On exploite, on coupe, il faut reboiser.
Je crois qu'il faut une réponse bien coordonnée. Donc, voilà. Il faudra... engager les communautés. Il faut engager les communautés. Et les problèmes aussi, je crois que c'est une maladie dans notre pays, c'est que quand on est agent de l'État ou quand on représente l'État quelque part, on veut apparaître partout. Il faudra qu'on voie que c'est moi. Non. À un certain moment, laissez la communauté, coordonner avec la communauté. La communauté est capable de planter, puisque si vous venez, vous dites, ok, nous allons planter 50 milliards d'arbres. Vous venez, vous plantez vos 50 milliards d'arbres et vous partez.
Sans associer la communauté.
Oui. C'est fini, c'est mort. Ça serait de l'argent perdu. Donc, je pense qu'il faut impliquer la communauté dans ces systèmes de reboisement. Il faut impliquer la communauté, mais aussi il faudra que l'on puisse insister pour que l'argent qui est encaissé puisse réellement correspondre aux efforts qui seront faits sur terrain. Parce qu'on peut encaisser beaucoup d'argent, mais sur terrain on ne plante que deux arbres. Et puis après on va dire, on amène les caméras et tout. Voilà, arbre symbolique. Et puis après, plus rien. Donc, je pense qu'il faut une réponse coordonnée tout en impliquant les communautés ou les riverains dans ce dans ces processus-là. Parce voilà. que si l'État y va seul, ça ne sera pas une réussite.
D'accord. On me fait signe que nous avons en ligne Monsieur Héritier Mpiana, directeur du cabinet au ministère de l'Environnement. Monsieur Héritier Mpiana, bonjour.
Bonjour Monsieur le journaliste et bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Bienvenue.
Bonjour aussi à votre invité qui est sur les plateaux.
D'accord. Alors dites-nous, qu'en est-il à propos de la résiliation des contrats forestiers illégaux en RDC tel que recommandé par la commission d'enquête?
Bien, merci beaucoup pour la question. Merci aussi pour l'intérêt qu'accorde la population congolaise à ces dossiers relatifs à la gestion, si vous voulez bien, la gouvernance forestière dans notre pays. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, souligner quelques faits qui ont été relevés par votre invité, qui ne relèvent pas de la vérité telle que les choses ont été conçues et même telle que ça s'est passé au niveau du ministère de l'Environnement, essentiellement au sein de la commission qui a été mise en place pour la révisitation des concessions forestières en République démocratique du Congo. D'abord, l'intervenant a parlé d'un problème de l'inclusivité. Moi, je voudrais rassurer à la population congolaise que la commission a été inclusive, d'autant plus qu'elle a réuni toutes les parties prenantes,
y compris la société civile,
qui ont joué un rôle majeur dans la révisitation des concessions forestières. Il y avait tous les services de l'État. Il y avait l'ANER, parce que l'intervenant a parlé de l'absence de l'IGF. L'ANER était là. L'IGF, c'est un service de la présidence. Il y avait un délégué de la présidence de la République qui a été d'ailleurs vice-président de la commission. Et il y avait la DGM, il y avait beaucoup d'autres services. Il y avait toutes les directions normatives qui y ont en charge la gestion forestière au ministère de l'Environnement. Et donc, parler de l'inclusivité tout simplement parce que il n'y avait pas la société civile, ça, c'est un faux débat. Pourquoi? Parce que nous avons estimé que la société civile ne peut pas être en même temps juge et partie. La société civile n'a que à faire ses recommandations, ses propositions, et nous prenons en compte. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Un ministre d'un gouvernement n'a pas besoin essentiellement d'avoir à côté de lui la société civile pour mener à bien ses responsabilités. Nous savons aussi qu'il y a aujourd'hui la société civile qui est politique et même une société civile qui est civilement politique et politiquement civile, tout ça, c'est un faux débat. Donc, la commission a été inclusive. J'ai parlé de l'IGF, j'ai dit que l'IGF, c'est un service de la présidence.
D'accord, Monsieur Héritier Mpiana. Alors, d'après les recommandations de la commission, il y a 30 contrats qui devaient être directement résiliés. Est-ce que c'est déjà fait ou pas?
Je vous ai perdu, excusez-moi, je vous avais perdu là.
Je disais, est-ce que les 30 contrats qui devaient être résiliés l'ont été déjà ou pas?
Bien entendu, toutes les concessions concernées par la résiliation, les responsables ont été bel et bien notifiés par les ministères. Pour signifier que, étant donné que la procédure d'acquisition, parce que la commission a procédé à l'invitation de tous les concessionnaires. Vous avez une concession, vous devriez venir avec tous les documents, vous présenter. On regarde les processus d'acquisition, comment ça s'est passé, si c'est légal, si c'est illégal, directement vous êtes dans les cas de résiliation. Et toutes les concessions qui ont été frappées par la résiliation ont été bel et bien notifiées.
Bien, mais cela n'a pas été publié. On n'a pas eu l'information qu'il y a eu qu'on a résilié les contrats.
Non, les rapports de la commission a été publié. Si vous allez sur le site du ministère de l'Environnement, vous allez vous rendre compte que les rapports de la commission a été publié.
D'accord.
Et les notifications, ce sont des actes administratifs. On n'est pas obligé de publier un acte administratif. On écrit une lettre à quelqu'un et puis on rend cette lettre là publique. On balance pas dans les réseaux sociaux, Monsieur Héritier. C'est pas vraiment sérieux.
D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. On est arrivé à la fin de cette émission. On aura l'occasion de revenir là-dessus avec vous. Dans une autre émission.
Nous disons merci à Monsieur Augustin Moudiaï, communicateur, et merci à Guy Kanjemba, coordonnateur du groupe de travail Climat Red Plus. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. À la prochaine.